VO Afrique, il est 15h à Washington DC, 19h en temps universel. Rosine Mounezero dans ce studio pour vous présenter ce bulletin d'information. Bonsoir et bienvenue. Au Burkina Faso, une attaque djihadiste meurtrière dont le bilan exact est inconnu a visé mardi la localité de Mansila dans le nord-est près du Niger, a-t-on appris dimanche de sources locales et sécuritaires. Beaucoup d'éléments sont portés disparus, a indiqué une source sécuritaire. Aucun bilan officiel n'a été dévoilé et les autorités n'ont pas communiqué sur cette attaque qui a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda. En Somalie, une bombe placée par les djihadistes Shebab a explosé samedi au passage d'un convoi de l'armée somalienne, tuant au moins 6 soldats, dont un colonel. Dans le sud du pays, ont indiqué samedi la police et les autorités locales. Le groupe Al-Shabaab, formation djihadiste affiliée à Al-Qaïda, a revendiqué l'attentat. Le pape François a déploré dimanche les combats et les massacres de civils dans l'est de la République démocratique du Congo, dont de nombreux chrétiens qu'il a qualifiés de martyrs de la foi. J'appelle les autorités nationales et les communautés internationales à faire tout leur possible pour la cessation des violences et la protection de la vie des civils, a déclaré le pape. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, réélu vendredi pour un second mandat, va former un gouvernement de coalition inclusif après la perte de la majorité absolue de son parti au Parlement, a annoncé samedi l'ANC. Le parti de Nelson Mandela s'est dit prêt à mettre de côté ses divergences politiques et à trouver des moyens innovants pour travailler ensemble dans l'intérêt de la nation. De son côté, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma a affirmé dimanche que son parti continuerait de contester les résultats des dernières élections générales qui ont, et selon lui, été truquées. Nous avons demandé à notre équipe juridique de prendre toutes les mesures possibles, tant en Afrique du Sud qu'au niveau international, pour faire en sorte que justice soit rendue, a déclaré le porte-parole de son parti MK en lisant un discours au nom de M. Zuma. Le MK est arrivé en troisième position lors des élections avec 14,6% des voix et 58 sièges au Parlement. Le sommet du G7 en Italie à peine fini. Le président américain Joe Biden s'est rendu à un gala de collecte de fonds à Los Angeles en présence de stars de Hollywood et donateurs. Lors de cette rencontre, M. Biden a expliqué d'un ton sérieux que le vainqueur de l'élection, quel qu'il soit, devra probablement nommer deux nouveaux juges à la Cour suprême. De son côté, son rival Donald Trump battait la campagne dans le Michigan pour tenter de tirer parti de la récente érosion des intentions de vote en faveur des démocrates au sein de la minorité noire, où il a déclaré que Joe Biden n'a rien fait pour eux. L'armée israélienne a annoncé dimanche qu'elle observerait une pause tactique quotidienne dans le sud de la bande de Gaza pour accroître le volume d'aide humanitaire entrant sur le territoire palestinien. C'est à la suite de discussions avec l'ONU et d'autres organisations, a précisé l'armée israélienne. La vaste majorité des pays réunis au premier sommet sur la paix en Ukraine ont réitéré leur soutien à l'indépendance et la souveraineté territoriale de l'Ukraine tout en reconnaissant que la Russie devra être partie prenante des discussions pour arriver à une paix durable et juste. Samedi, le président ukrainien a exprimé l'espoir de fédérer la communauté internationale autour d'une proposition de paix qu'il pourrait éventuellement présenter à Moscou. Quelques 4500 personnes, selon la police, ont participé dimanche à Bruxelles à une marche sociale et antifasciste contre la montée de l'extrême droite en Europe. C'est au moment où les élections européennes du 6 et au 9 juin ont été marquées par une poussée de l'extrême droite, notamment en France et en Allemagne. En Belgique, les élections législatives qui ont eu lieu le 9 juin se sont soldées par une victoire de la droite et du centre droit.
Foi et tradition. vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Manila Kidza avec vous, Joselle Morissin assure la réalisation et la production. Ce soir, redécouvrir le divin, c'est notre sujet. Féminité et transformation spirituelle dans le christianisme. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Jean-Pierre Saadi Kalegeye. Il a enseigné dans plusieurs universités africaines et américaines, dont au Sénégal, au Nigeria et aux États-Unis. Il a une formation pluridisciplinaire, littérature francophone, philosophie, linguistique africaine, éthique sociale et théologie. Il a aussi co-publié et co-dirigé des ouvrages sur plusieurs sujets, ainsi que plus de 50 articles. Je voudrais citer ici votre livre, Jean-Pierre, Religion en guerre et en paix en Afrique. Jean-Pierre, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Merci d'être avec nous. Ensemble, nous explorons comment une représentation féminine de la divinité pourrait transformer la spiritualité individuelle, redéfinir les dynamiques de genre et promouvoir une plus grande égalité dans les croyances et les pratiques religieuses. Jean-Pierre, actuellement, vous êtes chef du département des études transdisciplinaires au sein de l'organisation Sud-Sud, regroupant à plusieurs institutions d'Afrique, des Caraïbes, de l'Amérique latine, d'Asie et du Moyen-Orient. Ma première question concerne la théologie et féminité divine. Comment la théologie chrétienne traditionnelle a-t-elle traité la question de la féminité divine et quelles évolutions voyez-vous possibles dans ce domaine?
Disons d'abord, de façon générale, avant de parler d'études théologiques, que venant d'abord au christianisme et que d'autres religions ont eu la notion des dieux multiples, ou mieux, d'un dieu qui a plusieurs manifestations, ou manifestations de dieu. Et dans ce cas, il y a reconnaissance des déesses, donc dieu et déesses, donc qui cohabitent, qui existent. Par exemple, chez les Grecs anciens, il y avait plusieurs divinités féminines, dont Aphrodite, bien qu'il y a des hommes qui s'appellent Aphrodite, qui était la déesse de l'amour, Athéna, qui était la sage et protectrice d'Athènes, Héra, Hestia, mais aussi la fameuse qui était messagère de Dieu, Iris, par exemple. Et chez les Égyptiens aussi, les Égyptiens anciens, il y avait Mat, déesse de l'harmonie cosmique. Par exemple, il y avait Isis, déesse de la guérison, et d'ailleurs qui était vénérée pour son intelligence, n'est-ce pas, et aussi une femme fidèle et dévouée, n'est-ce pas. Et c'est elle d'ailleurs qui avait réanimé un autre dieu, Osiris, une fois assassiné. Et donc il y avait Hathor. Donc ça, c'est Anokis, Nut, qui était déesse du ciel. Donc c'est pour vous dire, dans les deux cas, par exemple chez les Grecs, chez les Égyptiens, il y avait la notion des dieux comme des déesses. Mais qui étaient des dieux, des déesses puissantes et aussi vulnérables. Par exemple, qui pouvaient être jalouses, qui pouvaient sentir, qui pouvaient aimer, qui pouvaient haïr, donc comme des personnes humaines, qui pouvaient aussi mourir, et voilà. Et donc pendant plusieurs siècles, alors pour revenir au christianisme, la théologie se développe beaucoup plus tard, n'est-ce pas, et surtout au sein du christianisme, mais aussi du judaïsme, évidemment. Mais et donc pendant plusieurs siècles, les sociétés qui sont fondatrices, ou les sociétés dans lesquelles sont nés le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et donc, pendant plusieurs siècles, donc ces sociétés ont connu le polythéisme. Donc, ça existait. Et, Et alors, ça a disparu dans une certaine mesure, c'est avec le christianisme ou avec les trois religions, où donc maintenant il y avait la notion du monothéisme. Donc, on pourrait dire, donc, le monothéisme, quelque part, a évacué ou plutôt a fait partir la notion de la divinité féminine, parce qu'il était question maintenant d'adorer ou de pas d'adorer un seul Dieu. Et ce qui est intéressant quand on parle de monothéisme, ça ne signifie pas un Dieu et puis d'autres n'existent pas. C'est-à-dire, d'autres dieux existent, mais on va adorer un seul Dieu. Donc, et ça se retrouve dans les trois religions monothéistes. Et donc, en affirmant la présence ou l'existence d'un Dieu unique, et en général, du moins qui est un masculin, et donc à ce moment-là, il y a aussi disparition de la divinité féminine. Donc ça, c'est un élément. Et plus tard aussi, avec le développement dans la théologie, une théologie qui est née dans un contexte précis, aussi, à continuer avec cette notion. Et remarquez, par exemple, dans le catholicisme, la théologie, bien que ça soit une science, mais interprète une vérité donnée. Et donc, une fois que la religion, le christianisme, définit, surtout dans le cas du catholicisme, définit Dieu comme masculin, donc la théologie, à l'époque, je dirais, maintenant, il y a d'autres courants, et cette théologie aussi, donc, à ce moment-là aussi, continue avec cette réflexion. Cependant, dans l'évolution de la théologie, comme vous avez posé la question, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi ce qu'on appelle des théologies féminines, donc, qui ont permis des grands changements, une façon aussi de redéfinir ou de repenser les catégories de Dieu.
Oui, certains théologiens et mystiques chrétiens, tels que Hildegard de Bingen et Julienne de Norwich ont employé des métaphores féminines pour décrire Dieu, soulignant des aspects maternels et nourriciers de la divinité. Alors, comment une représentation féminine de la divinité pourrait-elle transformer la spiritualité personnelle des croyants chrétiens?
Oui, très bien de citer ces théologies. Il y en a beaucoup, hein, donc ici aux États-Unis, en Afrique, comme il y a beaucoup de théologiennes féminines, et qui abordent ces questions et du moins qui nous permettent, d'une part, de comprendre qu'on ne peut pas réduire les catégories de Dieu en catégories humaines. Juste, du moins, quand je dis humaine, beaucoup plus est lié dans un contexte sociologique et culturel et linguistique. On va définir Dieu, c'est-à-dire une façon d'appréhender Dieu en Israël, ça pourrait être différent du Burundi, et d'ailleurs, compte tenu de ces contextes multiples. Donc ça, c'est au moins la théologie nous l'a permis, actuellement avec la théologie féminine. Et deuxièmement, je crois que cette théologie aussi a pu se nourrir avec l'existentialisme, bon, parce qu'on parle du christianisme, je dirais, par exemple, l'existentialisme chrétien de Gabriel Marcel, qui nous permettrait de repenser la personne humaine ou l'individu, hein, et donc au-delà de ce que nous pensons comme femme, homme, comme des catégories déjà données, des attributs. Et donc là, et comme on les réinvente, on les régit. Et aussi, il y a aussi, par exemple, l'anthropologie aujourd'hui, qui nous permet aussi de repenser ces gens, la question du genre. Et donc, dans tout cela, je pourrais dire, et aussi, donc, en remettant ce qui est comme le langage humain, et on peut aussi repenser Dieu différemment. Et ça, et c'est très, très important parce que, et maintenant, il y a une théologie canadienne, par exemple, qui dit, voilà, est-ce qu'on ne peut pas parler de Dieu avec E à la fin, par exemple, ou d'autres qui disent même Christ, est-ce qu'on ne peut pas parler de Christelle? Bon, pour certains, ça serait une exagération, mais remarquons que même la théologie, si on parlait de Jésus-Christ comme fils de Dieu, donc il te parle aussi, donc cette même théologie parle d'un fils, de fils éternel de Dieu, c'est-à-dire reconnaissant l'existence ou la préexistence de Jésus avant son incarnation, donc à le fils éternel. Et à cela, donc il peut être l'enfant éternel, et on peut le voir, on peut essayer de redéfinir, de repenser, et cette personne entre guillemets, ou ces divinités éternelles à travers homme ou femme. Donc c'est possible. Donc ce qui est historique, c'est le Fils. Donc c'est, c'est Dieu incarné. Donc ça c'est historique. Mais aussi, ce qu'on pourrait dire, ce qui est éternel, c'est autre catégorie où même les femmes comme les hommes peuvent se retrouver. Et donc cela est. Peut évidemment changer notre façon, notre spiritualité. Mais la question, évidemment, de parler de la spiritualité individuelle, c'est un problème dans le christianisme, surtout le catholicisme. Parce que la spiritualité, d'abord, renvoie aux croyances et pratiques d'une communauté. Donc, c'est croyances, pratiques d'une communauté. Alors, si on parle d'une communauté à ce moment-là, ces communautés catholiques, communautés, etc., ou protestantes, etc. Donc, je rends compte d'une foi, j'adhère à une communauté. Donc, si par exemple, je me définis comme chrétien catholique ou protestant, ça signifie j'accepte le concept, par exemple, de la Trinité. Et ce concept, donc la Trinité, ça ne dépend pas d'un individu. Donc là, c'est un mais. Ce qui pourrait quand même transformer, c'est aussi notre façon d'appréhender Dieu ou de parler de Dieu. Et donc ça pourrait être quelque chose que la théologie féminine nous a apporté. Donc, la représentation de Dieu. Dieu, par exemple, est tout-puissant. Et on pourrait redécouvrir ce qui existe aussi dans la Bible. Le Dieu tout-aimant, le Dieu miséricordieux, ou même un Dieu qui souffre avec l'humanité, pour reprendre l'expression de François Varillon. Et un théologien, par exemple, congolais, qui s'appelle José Bibaki, et qui écrit un livre assez important, qui s'appelle « Le Dieu-mère », l'incarnation, ou plutôt l'inculturation de la foi, c'est le Yombé. Et donc, il a étudié des proverbes dans sa langue maternelle, le Yombé, qui est une variante du Kikongo, la République démocratique du Congo, Angola ou même Brazzaville. Donc, il y a son peuple, donc le Yombé. Et il a trouvé que beaucoup des catégories bibliques et dans sa propre culture nous ramènent à Dieu qui ressemble plus à une mère qu'à un père, qu'à une figure imposante et du père. Et c'est là qu'est venue la notion. Donc ça, cela pourrait nous permettre d'avoir un autre regard de Dieu. Un autre regard signifie pas nier cette image de Dieu comme père, mais plutôt redécouvrir d'autres facettes, de facettes d'une même réalité de Dieu.
Divin, c'est notre sujet de ce soir dans ce dialogue des et religions. Nous abordons ce sujet avec le professeur Jean-Pierre Saadi Karegeye. Alors, on va maintenant voir les répercussions sur les pratiques religieuses. Jean-Pierre, quelles implications pratiques une divinité féminine pourrait-elle avoir sur les rites, les prières et les autres pratiques religieuses chrétiennes?
Bon, évidemment, le langage qu'on utilise, par exemple, qu'est-ce qu'on dira de notre Père qui est aux cieux, et ça pourrait être notre Dieu qui est Père et Mère, c'est possible. Bon, je sais que ça peut choquer les uns, je sais, parce qu'on est habitué à un langage. Les langages, mais tiens, Jésus-Christ avait dit notre Père, etc. Donc, c'est le langage d'abord pourrait changer, ça c'est important. Et qui change le langage aussi, c'est-à-dire c'est le regard aussi dans notre spiritualité, c'est le regard aussi de notre société par rapport aux possibilités. Donc, ça c'est un. Et donc, si on change, juste pour vous donner un exemple, savez-vous, par exemple, dans l'Église catholique, par exemple, le confiteor, n'est-ce pas? Je demande pardon à vous aussi, mes frères. On dit, c'était pas à vous aussi, mes frères et sœurs. Donc, ça, c'est une des conséquences. Donc, ça signifie de la question divine, même sur la question humaine, parce que là, c'est à vous aussi, mes frères. On ne disait pas à vous aussi, mes frères et sœurs. Donc, là, c'est quelque chose qui pourrait changer. Mais aussi, l'acceptation, ce n'est pas seulement qu'on parle de pratique, mais aussi l'acceptation des femmes dans des ministères divins, ou plutôt ministères importants dans l'Église, n'est-ce pas? Ça pourrait ouvrir la porte à ce qu'on ait des évêques, qu'on ait des prêtres femmes, etc. C'est possible. Et, bon, et là-dessus, je pourrais dire la fiction a une avance par rapport à nos réalités ou à la théologie. Il y a un roman qui s'appelle La papesse et Jeanne. Et donc, pourquoi pas? Donc, je pourrais dire que ça pourrait ouvrir à beaucoup, mais beaucoup plus important au rôle des individus, hommes, femmes, parce que ça existe déjà de toute façon, par exemple, chez les Anglicans, n'est-ce pas? Il y a les évêques qui sont femmes. Donc, mais c'est plus le regard qu'on a vis-à-vis de la femme ou vis-à-vis de tout humain dans ce contexte particulier de la spiritualité et de nos pratiques religieuses. Donc, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui pourraient changer. Le plus important, juste un petit mot, c'est que en ouvrant cette porte, donc Dieu, la notion de Dieu ne pourrait plus être, cette notion ne pourrait plus être réduite des manifestations culturelles et paternalistes d'une époque donnée. C'est-à-dire qu'on a une théologie vivante, on a une spiritualité vivante. Donc ce n'est pas, c'est pas une culture momifiée. Donc c'est qui s'est pratiqué pendant une certaine période donnée et qu'on oblige aux gens du XXe siècle avec des nouveautés et un autre regard de repenser, de continuer à penser Dieu à partir des siècles précédents. Et si vous voulez, même aujourd'hui, la technologie avec le monde virtuel, qu'est-ce que vous voulez? Même la même notion de Dieu pourrait évoluer signifie, c'est pas Dieu qui évolue, mais c'est plutôt notre interprétation, notre regard.
Jean-Pierre, il y a une question qui se pose au niveau du genre et pouvoir dans l'Église. Selon vous, faut-il promouvoir une réforme et des structures hiérarchiques afin de rendre l'Église plus inclusive et représentative de la diversité de ses membres?
Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que j'ai l'impression que les fondements théologiques et doctrinaux, et surtout de l'Église catholique, se limite et se repose essentiellement sur un seul phénomène perçu. Donc, les apôtres du Christ étaient hommes, Dieu est homme, etc. Homme comme on a parlant de comme masculin, donc physiquement, si vous voulez. Et là, on peut aussi se demander si l'image de Dieu n'est pas encagée dans le corps masculin seul, autorisé à interpréter les textes anciens, ou plutôt où l'image de Dieu est limitée à ça. Et moi, parce qu'on parle de la divinité et féminité, je me demande même si en essayant de réduire ou en réduisant Dieu à travers le corps masculin, on n'est pas en train de nier la divinité de Dieu. Parce que Dieu n'est pas qu'humain, n'est pas seulement ce corps masculin. Et donc, il y a d'autres aspects de Dieu. Donc, quand je parle, n'est pas seulement, c'est surtout dans le christianisme qu'on a la possibilité de parler des dieux comme humain. Mais ailleurs, non, on ne peut même pas le représenter. Et donc, mais si on insiste sur ce corps masculin de Dieu, de mon point de vue, on est en train de nier la divinité de Dieu. Donc, Dieu lui-même doit être inclusif. On va inclure d'autres interprétations. Et ça, je trouve que il faut donc plutôt redorer l'image de Dieu, ce Dieu qui n'est pas seulement masculin. Et justement, parce qu'on parle des femmes, donc à propos des femmes qui ne peuvent pas, à propos des femmes, j'ai envie, si je suis tenté de citer Werewe Rayleigh King, qui disait « Dieu est une femme et la femme le sait, et la femme le tait, et Dieu sait pourquoi. » Donc, c'est vraiment le King. Et donc, je crois qu'on ne peut pas parler de, si on veut parler d'inclusivité, c'est considérer donc Dieu dans, certes, pour les chrétiens, dans son humanité, à travers Christ, le Christ, mais masculin, c'est très, le corps masculin plutôt. Il faut, donc en transcendant le corps masculin, et donc là, nous revisitons l'image du divin, mais là aussi l'image du Dieu miséricordieux, Dieu qui protège, Dieu qui aime, et qu'on retrouve surtout dans la catégorie féminine, donc au moins d'après certains textes de la Bible et d'après certaines traditions. Donc je crois que l'inclusivité signifie aussi s'ouvrir à d'autres facettes du divin.
Alors, il nous reste très peu de temps. Comment l'introduction ou la reconnaissance d'une divinité féminine dans le christianisme pourrait-elle influencer les dialogues interreligieux, notamment avec des religions qui ont déjà des figures divines féminines importantes? Il y a l'hindouisme, le bouddhisme et les religions indigènes, notamment.
On pourrait dire d'abord que le monothéisme pur et simple qu'on trouve dans les trois religions, bon, ça ne dit pas qu'on trouve le monothéisme, on le trouve dans les trois religions, mais quand il est pur et simple, il devient intolérant. Et d'ailleurs, ceux qui étudient, par exemple, l'intolérance, pensent que même la notion du monothéisme est déviée. Dans certaines mesures, il y a aussi contribué. Donc, plusieurs facettes de Dieu, comme dans le christianisme, avec la Trinité, permet la tolérance, permet le dialogue, la pluralité de sens. Donc ça, je crois que ça, si on admet déjà ce dialogue, pas seulement interreligieux, mais même à l'intérieur d'une même religion, vous avez des hommes et vous avez aussi des femmes, donc c'est un signe de tolérance, mais aussi d'avoir la pluralité de sens. Donc ça pourrait permettre, et je crois que ça pourrait continuer aussi dans le sens du dialogue, par exemple sur la paix, le pape Jean-Paul II avait initié à des prières d'assises, donc il y avait toutes ces religions. Donc je crois que dans le même sens, il y a moyen de repenser Dieu, c'est-à-dire là, les religions se retrouvent, et plusieurs traditions, et il y a des religions, ce qu'on a dit, qui accèdent aux divinités féminines, mais se retrouvent sur la notion de la paix, par exemple. Ça fait possible sans penser qui est monothéiste et sans penser, mais surtout qui a une représentation masculine. Par exemple, dans le cas du bouddhisme, vous savez qu'il y a plusieurs représentations de Bouddha. Donc, la représente en Inde ou en Chine ou au Japon ou ailleurs. Si vous regardez, là, les représentations sont tout à fait différentes. Il y a qui ont des représentations de Bouddha avec plusieurs noms, etc. Donc, qui se disent, voilà, c'est un seul Dieu, c'est une seule déesse, mais nous avons plusieurs manifestations. Et donc, je crois que cela, je verrais plutôt un signe de tolérance entre religions.
Donc, des religions qui honorent des figures divines féminines. Merci à Jean-Pierre Saad Karegeye pour votre expertise et toutes les explications. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Eric, pour l'invitation.
Eric Manilakis a été avec vous à ce micro. Joselle de Morissin assure la réalisation et la production, le dialogue des religions. Ce soir, redécouvrir le divin et nous avons donc focalisé notre discussion notamment sur la féminité et transformation spirituelle dans le christianisme. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine.